Ottawa, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du jeudi 11 mai 2023. En direct de Washington, Idrissa Seloulia. Pour commencer, les titres. En Guinée, 7 morts par balle dans les manifestations anti-juntes selon l'opposition. Et libération de 3 figures de la société civile en prison depuis des mois. Au Mali, 2 militaires russes et un civil tués par l'explosion d'une grenade dans un bar. Et 6 soldats tués dans une embuscade près de Bamako. Un chef du djihad islamique a été éliminé par Israël dans la bande de Gaza. 25 morts depuis mardi. Les États-Unis lèvent ce jeudi des restrictions à leurs frontières sud et mobilisent plus de 25 000 agents en prévision d'un afflux de migrants. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. En Guinée, une manifestation à l'appel des forces vives de Guinée a enregistré des violences dans la capitale mercredi. On parle de victimes, dont certaines par balles. De Conakry, notre correspondant Zakaria Camara.
Ces manifestations ont pour objectif d'exiger l'arrêt des harcèlements judiciaires des acteurs politiques et de la société civile, dont certains sont arbitrairement détenus sans jugement depuis de longs mois, selon les forces vives de Guinée. Les organisateurs demandent également l'application sans délai des décisions du dernier sommet de la CEDEAO tenu à Addis Abeba, à marge du sommet de l'Union africaine, notamment celle exigeant des autorités guinéennes l'organisation d'un dialogue inclusif et crédible avec les forces vives de la nation pour définir de manière consensuelle les conditions du retour à l'ordre constitutionnel. Composées de partis politiques et d'organisations de la société civile, les forces vives ont mis fin à leur participation au pourparlers avec le Premier ministre sous la médiation des religieux et appellent à une série de manifestations. Mercredi, la circulation a été perturbée dans plusieurs quartiers de la capitale. Des jeunes et des forces de l'ordre se sont affrontés à coups de pierres et de gaz lacrymogènes. Zakaria Camara, pour VOA Afrique, Conakry.
On déplore maintenant 7 morts et 30 blessés par balle, ainsi que 56 arrestations dans les manifestations d'hier selon l'AFP, citant le dernier bilan donné hier soir par les forces vives de Guinée, un collectif formé de partis, de syndicats et d'organisations de la société civile. L'agence de presse dit que les autorités guinéennes étaient injoignables pour une réaction à ce bilan. Le collectif a appelé à la poursuite des manifestations pacifiques et citoyennes ce jeudi 11 mai. Toujours en Guinée, 3 personnalités de la société civile emprisonnées depuis plusieurs mois et dont les manifestants réclamaient aussi la libération ont été relâchées hier à Conakry. Les responsables du FNDC, Front National pour la Défense de la Constitution, Omar Sylla, alias Fonike Mangé, Ibrahima Diallo et Mamadou Biloba, sont sortis de prison à 22h30. Ils sont totalement libres, a affirmé à l'AFP Abdoulaye Oumoussou, le responsable de la communication du FNDC, un collectif qui conteste la junte au pouvoir en Guinée. Le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, est arrivé hier après-midi pour une visite d'amitié et de travail à Ouagadougou, où il a été accueilli à l'aéroport international par le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré. Selon la présidence burkinabé, les deux leaders ont évoqué des questions majeures de la sous-région, confrontées aux défis sécuritaires et échangé sur des sujets d'intérêt commun aux deux peuples. Au Mali, au moins 2 instructeurs russes et un civil ont été tués mardi soir par l'explosion accidentelle d'une grenade dans le centre du pays. Par ailleurs, 6 soldats maliens ont été tués et 9 blessés dans une embuscade contre un détachement de l'armée près de Bamako. Nani Talani.
Mardi soir, il y a eu un accident au bar Tam Tam de Ségou, dans le centre-sud du pays. Un instructeur russe a mal manipulé une grenade. deux Russes ont été tués. Il y a eu aussi un civil mort, a déclaré un policier de la ville. Un élu local ajoute que deux soldats maliens sont également décédés. Par ailleurs, dans un autre incident, des soldats sont tombés lundi dans une embuscade dans une zone proche de la localité de Badala, près de Kita, à quelques 130 km de Bamako, dans l'ouest du pays, a indiqué une source policière sans préciser la nature de l'attaque et l'identité des assaillants. La riposte des soldats a fait plusieurs morts parmi les assaillants, a ajouté la même source policière sans plus de précision. Un élu local a confirmé le bilan de 6 soldats tués et 9 blessés. D'après lui, l'attaque a été menée par des djihadistes.
Au Sénégal, le président Macky Sall est intervenu personnellement, selon ses services, pour tenter de régler cette semaine un litige foncier entre une communauté traditionnelle de Dakar et l'État, en réunissant tard mardi soir les représentants de Ngor et des Lébou. La contestation par les Lébou d'un projet de construction d'une gendarmerie dans le quartier de Ngor a causé de violentes confrontations qui ont culminé mardi entre une partie de la population et les gendarmes. Aucun bilan humain n'a été communiqué officiellement, mais selon Mamadou Ndiaye, président du mouvement Ngor Debout, cité dans la presse, il y a eu 2 morts, dont une jeune fille, et de nombreux blessés. Selon la présidence sénégalaise, M. Sall a décidé de partager à part égale le terrain entre gendarmes et population et a annoncé la construction d'un lycée. Au Soudan, de fortes explosions ont secoué mardi à Khartoum, au 26e jour de la guerre pour le pouvoir entre l'armée et les paramilitaires, sans avancer jusqu'à présent dans les négociations à Jeddah en Arabie Saoudite sur des couloirs pour acheminer l'aide et faire sortir des civils pris au piège. Des habitants d'El Obeid, une ville à 350 km à l'ouest de la capitale, ont également fait état d'affrontements et d'explosions. Les combats qui ont éclaté le 15 avril ont fait plus de 750 morts et 5000 blessés, selon des ONG et les autorités. Le nombre de déplacés se compte, dit-on, par centaines de milliers.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Israël a éliminé jeudi avant l'aube un chef militaire du djihad islamique palestinien dans une nouvelle frappe sur la bande de Gaza, où ses opérations ont fait 25 morts depuis mardi selon les autorités locales. Il s'agit d'Ali Ghali, commandant de l'unité de lancement des roquettes du groupe selon le djihad islamique, qui a tiré depuis mercredi après-midi plusieurs centaines de roquettes, n'ayant fait à ce stade aucun blessé en Israël. Le point avec Eric Manirakidza.
Hier, plusieurs dizaines de roquettes ont été tirées à partir de la bande de Gaza vers Israël, déclenchant des tirs de barrage antimissile côté israélien avant de nouvelles frappes aériennes sur Gaza. Selon l'armée israélienne, plus de 270 roquettes ont été tirées vers Israël et en représailles, Tzahal dit avoir visé plus de 40 rampes de lancement de roquettes et d'obus de mortiers du djihad islamique. Le djihad islamique depuis mardi avait promis une réponse de même ampleur. Des échanges de tirs ont déjà eu lieu la semaine dernière après la mort dans une prison israélienne d'un responsable du djihad islamique en grève de la faim. Il s'agit de l'escalade la plus grave depuis août 2022 et l'Égypte, médiateur traditionnel, s'active pour obtenir un cessez-le-feu. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est très inquiet, a indiqué un porte-parole onusien à New York.
Les États-Unis ont déployé hier plus de 25 000 agents à la frontière avec le Mexique et adopté de nouvelles restrictions au droit d'asile avant de lever une mesure sanitaire qui verrouillait l'accès au pays depuis le début de la pandémie de COVID-19. Le point avec Michel Joseph.
Le président Joe Biden a reconnu dès mardi soir que la situation serait chaotique à l'expiration du dispositif dit Titre 42. Ce soir, à 23h59, heure de Washington, beaucoup de villes frontalières ont déjà vu arriver de nombreux candidats à l'exil. À El Paso, plusieurs centaines de personnes dorment dans les rues. Le gouvernement a annoncé hier le déploiement de plus de 24 000 agents et plus de 1100 coordinateurs de la police, sans compter les 1500 soldats venus au renfort aux 2500 militaires déjà aux frontières. De nouvelles restrictions au droit d'asile vont entrer en vigueur dès ce soir. Les demandeurs devront avoir au préalable un rendez-vous sur une application téléphonique mise en place par des gardes-frontières ou s'être vu refuser l'asile dans un des pays traversés. Sinon, leur demande sera rejetée et ils pourront faire l'objet d'une procédure d'expulsion accélérée. Les États-Unis prévoient aussi d'augmenter les vols de rapatriement. Pour les associations de défense des migrants, Joe Biden finit le travail de Donald Trump. Par contre, les républicains dénoncent la levée du titre 42, accusant M. Biden d'avoir transformé la frontière en passoire.
La Minute Éco, Nanit Talani.
Les exportations non pétrolières du Nigeria ont augmenté de 40% pour atteindre 5,6 milliards de dollars en 2022 grâce à un programme de la Banque centrale visant à verser des primes aux exportateurs de produits transformés afin de diversifier l'économie loin du pétrole. Abuja vise jusqu'à 200 milliards de dollars d'ici 5 ans à partir d'exportations en dehors du secteur pétrolier qui représente 90% des recettes d'exportation. Les mesures visant à renforcer la mobilisation des recettes intérieures au Niger restent cruciales pour accroître l'espace budgétaire favorable aux dépenses sociales prioritaires, estime le FMI, qui recommande à Niamey des efforts continus pour simplifier le système fiscal, promouvoir la numérisation des recettes, une stratégie de gestion des recettes pétrolières et l'amélioration des services publics. Pour terminer, au Cap-Vert, de nouvelles hausses des prix du carburant et des denrées alimentaires pourraient croître le nombre de ménages ayant besoin des programmes de filets de sécurité, augmentant ainsi les dépenses, s'inquiète la Banque mondiale. Des risques pourraient également découler de l'absence des réformes des entreprises publiques, ajoute l'institution qui recommande aux autorités d'assainir le budget de l'État en réduisant l'endettement.
Merci Nanit. À présent, les sports avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Suite des matchs des quarts de finale de la CAN des moins de 17 ans ce soir en Algérie.
Oui, le Mali, double champion, poursuit sa quête d'un troisième titre face au Congo. À Alger, le dernier quart de finale opposait le Nigeria au Burkina Faso. Hier, dans les premiers quarts de finale, le Sénégal, qui a surpassé ses concurrents en phase de poule, a pulvérisé l'Afrique du Sud 5-0, dont un doublé d'Amara Diouf. Dans le duel attendu entre le Maroc et l'Algérie, les Lionceaux marocains se sont imposés 2-0 pour filer en demi. C'est la première fois de son histoire que le Sénégal décroche une place en demi-finale de la CAN des moins de 17 ans. Les Lionceaux marocains et sénégalais se qualifient du même coup pour le mondial de leur catégorie, prévu à la fin de cette année 2023.
Demi-finale aller de la Coupe CAF, toujours hier sur le continent.
Les Tanzaniens de Young Africans ont pris une sérieuse option pour la finale en dominant à domicile. Les Sud-Africains de Marumo Gallant, 2-0. Le Burkinabé Stéphane Azizki et le Ghanéen Bernard Morrison sont les buteurs. Dans l'autre demi-finale, les Ivoiriens de l'ASEC Mimosa et les Algériens de l'USM Alger se sont neutralisés 0-0. La rencontre retour se jouera dans une semaine dans la capitale algérienne.
André Onana et l'Inter Milan dominent l'AC Milan en Ligue des Champions.
L'Inter Milan a maîtrisé l'AC Milan 2-0 en demi-finale aller de Ligue des Champions. Hier mercredi en Lombardie, le portier camerounais André Onana et les interistes prennent ainsi une option pour la finale. Des buts d'Edin Dzeko à la 8e minute, puis de Henri Mkhitaryan à la 11e, ont permis à l'Inter de prendre un avantage conséquent d'entrée que leurs rivaux milanais devront remonter lors du match retour, toujours au stade San Siro. Dernière équipe italienne à avoir soulevé la coupe aux grandes oreilles en 2010, sous la direction de José Mourinho et de Samuel Eto'o fils comme attaquant, l'Inter reste plus que jamais en course pour une quatrième couronne si elle confirme mardi prochain.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Sidoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Togo, les partis politiques de l'opposition et les associations de la société civile sont vent debout contre la manière dont le recensement électoral en vue des législatives et régionales s'est déroulé dans la zone 1. Ils dénoncent des dysfonctionnements observés et réclament une meilleure organisation du recensement qui commence ce samedi dans la zone 2. De Lomé, notre correspondant Kossi Wosso.
Quelques heures après le recensement électoral dans la zone 1, comprenant Lomé et les localités de la région maritime qui comptent le tiers de la population togolaise, plusieurs partis politiques de l'opposition dénoncent la mauvaise organisation de l'opération qui n'a pas permis à tous les Togolais de la zone de posséder leur carte d'électeur. Kafuya Djamagbo est la coordinatrice de la dynamique pour la majorité du peuple.
C'est un recensement qui s'est pas du tout bien passé. La CENI n'a pas été à la hauteur et on a laissé sur les carreaux une partie importante de nos compatriotes. Ce n'est pas normal. C'est une violation de leurs droits et nous ne comprenons pas comment on peut justifier ça dans un pays censé être une démocratie. Ce n'est pas normal. C'est pour ça que nous nous emportons contre ce qui a été fait.
Pour Thomas Koumoum, coordonnateur de la coalition LIDAO, un regroupement d'associations de la société civile qui intervenait sur un média de la place, les manquements observés lors du recensement dans la zone 1 dénotent de la mauvaise volonté du gouvernement et un manque de transparence.
On constate malheureusement qu'il y a un chaos sur le terrain. La répétition d'erreurs dans les centres nous donne l'impression qu'on est en face de quelque chose qui a été planifié et orchestré pour que les Togolais ne puissent pas s'enregistrer, en tout cas dans la zone 1, et nous nous posons vraiment des questions. Ce que nous constatons à la coalition LIDAO, malheureusement, c'est que on ne veut pas que ce processus se déroule dans une certaine transparence.
Pasteur Edo Komi du mouvement Martin Luther King réclame une autre session de recensement dans la zone 1 pour plus d'équité.
Sincèrement, les choses ne se sont pas bien déroulées, il faut avoir le courage de le dire. Nous insistons sur le fait que le recensement doit être repris dans la zone 1 pour que ces concitoyens qui n'ont pas été inscrits puissent le faire. C'est leur droit le plus absolu.
À la dynamique de la majorité du peuple, on prend les dispositions pour cela. Kafui Adjamagbo.
D'ici là, nous nous anticipons et nous demandons à ces compatriotes de ne pas baisser les bras. Nous allons mettre en place une plateforme qui sera bientôt opérationnelle où ceux qui ont été exclus pourront s'inscrire. Et ensemble, nous allons mener la bataille, comme le code électoral nous en donne le droit, pour qu'ils obtiennent satisfaction.
En Conseil des ministres, en début de semaine, le gouvernement a déploré les dysfonctionnements et difficultés constatées au cours de ce recensement et a appelé les acteurs à tout mettre en œuvre pour apporter des solutions afin que la suite du processus se déroule dans la sérénité. Kossi Wosso, Lomé pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Lomé sur 102.3 FM.
Climat morose entre les forces de l'EAC, la Communauté des États d'Afrique de l'Est, et les autorités de la République démocratique du Congo. Le président Félix Tshisekedi a déploré une nouvelle fois mardi, lors d'une conférence de presse au Botswana, la cohabitation entre les forces de la communauté déployées dans l'Est de la RDC et les groupes armés, plus précisément avec les rebelles du M23. Pour une analyse, Eddy Issango a joint à Kinshasa l'éditeur du quotidien La Prospérité, Marcel Ngoyi.
Je considère que le président de la République en a eu ras-le-bol en ce qui concerne l'institution d'une force militaire régionale qui a du mal à exécuter la mission pour laquelle cette force a été sollicitée. Je considère que cette force n'a pas rempli correctement ses obligations. Et tout comme elle a failli totalement à la mission qui lui a été confiée. Donc ça veut dire que c'est un échec, cette force militaire régionale, qui n'a pas réussi à neutraliser, n'est-ce pas, les M23 et toutes les autres forces négatives qui opèrent dans la région. Et donc le président a raison de changer son fusil d'épaule dès lors qu'il considère que la première stratégie n'a pas réussi.
Qu'est-ce que cela veut dire quand le président de la République de la RDC, Félix Tshisekedi, parle de la fin de mission de l'EAC en juin? Peut-on s'attendre à ce que la RDC ne renouvelle pas cette mission?
C'est toujours possible, parce que maintenant, c'est vrai que le président veut faire confiance à la force est-africaine venue de l'autre côté du pays de la communauté de l'Afrique de l'Est. Et le fait que le président se tourne aujourd'hui vers la SADC en lieu de place de l'EAC, est un facteur, c'est une décision qui est constitutive d'une nouvelle orientation. Parce que loin de substituer les forces, c'est la juxtaposition qui va se faire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer à multiplier les forces opérationnelles dans l'Est. On va peut-être prendre maintenant la force de la SADC qui va remplacer celle de l'EAC pour ne pas avoir les doublons.
Mais il faut dire qu'il y avait déjà cet épisode de la démission et du remplacement du chef d'état-major qui est un Kenyan, le lieutenant-général ou le général-major Jeff Niaga, il y a une semaine.
Oui, le malaise était déjà là, parce qu'en fait, le président de la République n'a pas noté d'avancée significative sur le terrain. Mais même là, il y a une sorte de complicité entre les forces de la communauté d'Afrique de l'Est et le groupe armé, dont les M23 en tête. Et donc aujourd'hui, on voudrait avoir une force qui soit constituée plus ou moins des pays qui ont le cœur à l'ouvrage pour cette fois-là faire l'opération. Vous savez que l'Angola avait promis d'envoyer un contingent de 500 militaires, mais aujourd'hui, il y a l'Afrique du Sud qui fait partie, dont les militaires font partie de la MONUSCO. Alors, il y a certainement des questions qui restent en termes de détails pour savoir si l'Afrique du Sud, qui est déjà la MONUSCO, va vraiment aligner des gens ou donner seulement du matériel. Mais ce qui est important est que on a une présence de la communauté d'Afrique australe qui risque de se substituer à la première. Donc, pour ne pas avoir à la fois l'EAC et la SADC sur le même terrain, sur le même théâtre d'opération.
Marcel Ngoyi, l'éditeur du quotidien La Prospérité de Kinshasa.
VOA Afrique, votre rendez-vous quotidien à Bukavu sur 97.4 FM.
Au Cameroun, un programme de reconversion d'anciens footballeurs dans la filière banana plantain a été officialisé cette semaine à Yaoundé. La Fédération camerounaise de football va sélectionner pour une formation suivie de financement les anciennes gloires du ballon rond qui veulent se lancer dans l'agriculture. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Jules Tap.
Plusieurs anciens footballeurs sont venus s'imprégner du contenu du programme de reconversion dans la filière banane plantée. Le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, ne tarit pas d'éloges sur ce programme.
La filière de production banane plantain est un gisement d'opportunités. Tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur ou dirigeant du football. Nous devons donc aider ces retraités du football à opérer reconversion réussie dans le secteur productif. Il est judicieux de recycler nos footballeurs dans les métiers valorisants de l'agro-industrie.
La Fédération camerounaise de football va sélectionner les bénéficiaires qui vont être encadrés par l'Association nationale des acteurs de la filière banane plantain. Tony Obambikwe, président de l'Association nationale des acteurs de la filière banane plantain.
Nous voulons fabriquer des chefs d'entreprise à qui on pourra prêter 10, 15, 20, 30, 250 millions et être capable de tirer la chaîne de valeur. Dans les métiers de pépiniériste, producteur de plants, soit dans les métiers de producteur de régie, soit dans les métiers de transformateur. C'est pour ça qu'on les amène en incubation pour ouvrir leur regard.
Emmanuel Koundé, ancien capitaine des Lions Indomptables, est aujourd'hui âgé de 66 ans. Il pense que cette initiative vient à point nommé.
Après le football, il y a beaucoup d'entre nous qui n'ont pas pu continuer à mener la vie normalement. Bon, je crois qu'avec cette initiative, beaucoup de choses pourront changer.
L'ex-défenseur central de la cuvée 2000 des Lions Indomptables, Lucien Motomo, n'est pas moins intéressé par le programme de reconversion de ses pairs dans la filière banane plantain.
C'est un projet qui est du pain béni pour nous. Si cet exécutif-là, par la personne du président Samuel Eto'o, a ouvert cette porte-là, je peux vous garantir que nous allons nous en respecter pied, tête et manier.
Le gouvernement est partie prenante de cette initiative à travers le ministre de l'Agriculture. Le Cameroun s'est fixé l'objectif d'atteindre une production annuelle de 10 millions de tonnes de bananes plantain. Gabriel Bayoré, ministre de l'Agriculture et du Développement Rural.
Nous proposons une activité dans laquelle nous formons, d'abord nous développons les compétences des acteurs avant de les mettre sur le terrain.
Pour beaucoup d'anciens amateurs du ballon rond, planter les bananiers devient désormais le nouveau défi à remporter sur le terrain. Yaoundé, Emmanuel Jumtap, VOA Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Ici aux États-Unis, l'administration de Joe Biden lève ce jeudi le Title 42, un protocole strict mis en place par son prédécesseur Donald Trump. Washington prévoit de dissuader l'immigration illégale avec le Title 8, qui va refuser toute résidence légale future en cas de passage clandestin. Eric Manirakidza a recueilli la réaction de Dennis Beaver, avocat à Bakersfield, en Californie.
Il y a un déluge de gens illégaux. C'est dingue ce qui se passe. On ne peut pas accepter tout le monde.
Mais la frontière n'est pas ouverte. Il y a même plusieurs dizaines de milliers de militaires dépêchés à la frontière.
Oui, mais ça n'a rien à faire. Les gens vont continuer de venir. Trump avait raison. Il faut faire un mur soit royal ou avec des milliers de soldats. C'est dingue ce qui se passe. Les villes sont envahies par ce déluge de gens. On ne peut pas accepter tout le monde. C'est dangereux pour nous. Il faut d'abord penser à nous-mêmes, aux Américains, qui n'ont pas suffisamment de bouffer. Et là, on va donner du fric aux maîtres illégaux. Hein? Ce n'est pas correct.
Oui, l'administration Biden prévoit de dissuader désormais l'immigration illégale avec le titre 8, qui refusera toute résidence légale future en cas de passage clandestin.
Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Les gens vont continuer, ils vont recevoir un petit papier. OK, d'accord, on va te parler dans un mois, dans deux ans peut-être. Il faut les arrêter à la frontière. Il faut des soldats. Il faut faire ce que Trump était en train de faire. Fermer la frontière. Allez-vous-en. Je pense, nous autres Américains, et tu sais, hein, toute ma vie en Californie... on a ras-le-bol de ces gens. Ils viennent parfois au bureau, dans mon cabinet, et ils attendent que je vais donner un coup de main, gratuitement. Ils attendent tout, puisque le gouvernement, le Biden et ses amis ont dit, d'accord, l'Amérique est de retour. America is back.
C'est dingue. Mais Monsieur Beaver, ces nouvelles règles ont été vivement critiquées par les associations de défense des migrants qui accusent le président Biden de mener une politique migratoire pas si différente de son prédécesseur Donald Trump.
On va voir, il faut voir, puisqu'au départ c'était pas comme ça.
Mais les États-Unis ont besoin de main d'œuvre.
Légalement, et venez ici illégalement et sans parler la langue évidemment. Attendez les soins médicaux, la bouffe, tout ça, de nous autres, c'est pas juste. C'est vraiment du vol des citoyens américains.
Mais l'administration Biden veut encourager les voies légales d'immigration et ceux qui vont entrer illégalement seront refoulés, c'est ce que dit la nouvelle mesure.
Eh bien, très bien, tu fais la demande depuis le Mexico, depuis le Venezuela, mais pas en venant ici. Illégalement.
Dennis Beaver, avocat à Bakersfield, en Californie. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Seludia, à la mise en onde de Firmin Koyaweda, à la console Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute.